RMC, les grandes gueules.
Comme chaque année, la restauration, l'hôtellerie commence à préparer la saison estivale. Et comme chaque année, il est difficile de recruter. Alors, on nous dit que aujourd'hui, il manque à peu près 200 000, 250 000 postes dans l'hôtellerie de la restauration, essentiellement en cuisine et les serveurs. Alors, j'avoue que j'avais oublié ce chiffre. Avant 2020, avant le Covid, vous saviez combien il y avait de saisonniers dans ce secteur du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration ?
Non.
1 million.
Ah non. De saisonniers uniquement, donc.
Avant 2020, plus d'un million de personnes travaillaient comme saisonniers chaque année.
Ah mais là, tu intègres tout, l'agriculture, tu intègres tout.
Le saisonnier. Un million.
Pas que restauration. Okay. Oui.
Aujourd'hui, on est en déficit de 50% par rapport à ce million de saisonniers qu'on avait avant le Covid. Alors, 200 000 là qui manquent toujours à l'appel, est-ce que c'est inquiétant ? À qui la faute ? 32-16 pour en discuter avec les GG, avec les grandes gueules. Stéphane, alors, c'est quoi ? C'est le salaire ? C'est le logement ? C'est...
Comme chaque année, on va faire toujours le même constat. On va faire, les ouin-ouin pour reprendre une expression sur Twitter en disant on trouve pas de saisonniers, on trouve pas de salariés. Bah, évidemment, il faut se poser les bonnes questions. Moi, je mets les pieds dans le plat. On peut pas chaque année venir au micro en disant on manque de salariés. Faut aussi proposer des solutions. Olivier Grégoire en avait proposé d'ailleurs. Le gouvernement, j'ai noté qu'ils veulent remettre les Français au travail. Tu disais tout à l'heure que dans le Nord, il manque 4000 salariés. Oui. Moi, je sais pas si au fond, c'est nous avons une pénurie ou si c'est France Travail qui est en surtension de candidats. Parce que si je regarde, là, je vais le faire tout à l'heure, je vais le faire gronder par Naïs, je le ferai tout à l'heure, mais je vais te donner le chiffre du nombre de personnes qui cherchent du travail dans le Nord, tu vas prendre peur. Donc, à un moment, il faut remettre les gens au travail. Il faut remettre la valeur travail en place. Et puis, il faut aussi intégrer que dans un secteur où on utilise l'intelligence de la main, ce qui est le cas de l'artisanat en France, eh bien, on a un poids qui s'appelle les cotisations et les charges sociales qui sont asphyxiantes. Et donc, qui ne permettent plus.
En fait, ce que tu piges pas, c'est l'adéquation, quoi. L'inadéquation. Ouais.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'il y a un taux de chômage qui est élevé dans une région. Il y a une forte demande dans un secteur qui est celui de l'hôtellerie et de la restauration. À un moment, on devrait pouvoir faire matcher les deux, quoi, en fait.
Et,
c'est ça.
Et la question qu'on doit se poser.
Oui, mais le gars qui va te dire, moi, écoutez, je cherche en tant que commercial,
je parle précisément dans le secteur. Job équivalent, d'accord. Dans un secteur, pas je suis commercial et je dois faire serveur. Non, c'est pas l'idée. Et après, moi, je ne sais pas d'où sort ce chiffre, honnêtement, de 200 000. J'ai cherché. Je sais que je peux pas faire un copain encore, mais il donne ce chiffre à tout va. Moi, j'ai cherché, je n'ai trouvé aucune source officielle de 200 000. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que l'activité,
ça remonte via France Travail et les organismes qui sont en charge de justement de trouver.
Moi, j'ai pas trouvé de base légale. Mais au-delà de ça, ce que je peux te dire et tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent aujourd'hui, dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, tout. Les contrats, la quasi-totalité des personnes qui sont aujourd'hui en période d'essai ont vu leur période d'essai s'arrêter. Pourquoi ? Parce qu'il y a un ralentissement violent dans le secteur du tourisme, de la restauration. On le voit, le taux de fréquentation dans la restauration est catastrophique. Vous pouvez la réserver, y compris dans un 3 étoiles Michelin à Paris, si vous avez les moyens. Avant, c'était 2-3 mois d'attente. Aujourd'hui, tu as peut-être même une table ce midi. Donc, tu as une vraie crise de confiance lié au pouvoir d'achat, des commerçants qui ne viennent plus parce qu'ils n'ont plus rien à fêter, le bâtiment qui ne vient plus parce qu'ils n'ont plus rien à fêter. Donc tu as aussi un effet ciseau qui commence à s'inverser, c'est-à-dire qu'on est presque, pour certains, en trop plein. On n'est même plus. Moi j'ai des confrères, ils sont plus en demande. Ils sont en trop plein de collaborateurs. Donc le problème aujourd'hui qu'il va falloir que l'on règle, c'est comment on limite la casse avec les procédures collectives qui augmentent, plus 42% en Île-de-France sur les artisans dans le secteur du tourisme, plus 42% versus l'année dernière. C'est colossal. Là, on n'est plus sur les stades Covid, on est sur des chiffres de la vraie vie, où ça avait déjà corrigé. Donc on est à plus 42%. Et qui sont les premiers à partir au tas ? Ben, j'ai plein de confrères qui partent au tas, c'est ceux qui emploient beaucoup de monde, parce que il faut du monde pour produire, et ceux-là, ils sont en train de crever.
Et parce que ça coûte cher.
Et ça coûte cher, mais ça, on n'en parle pas. Et merci de nous donner l'opportunité d'en parler.
Avant de donner la parole à Elina et à Antoine, on va passer par l'Indre-et-Loire. On va aller du côté de Tours, retrouver Pierre. Bonjour Pierre.
Bonjour les GG.
Bienvenue avec nous, Pierre, gérant de start-up. Comment est-ce qu'on explique, on a encore du mal à trouver des saisonniers alors, Pierre, selon vous ?
Ouais, complètement. Alors après, moi, je suis dans le secteur du nettoyage, donc c'est pas ça se rapproche de celui de la restauration. Et aujourd'hui, la complexité, c'est concrètement la rémunération. Je suis passé par les mêmes soucis qu'un restaurateur peut avoir dans le recrutement, notamment pour des missions ponctuelles de ménage, l'été, l'hiver, quand il y a des pics. Et aujourd'hui, ce qui est problématique, c'est la rémunération. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et je pense que c'est la même chose dans le secteur de la restauration, on est confronté à un pic de statut d'auto-entrepreneur. Pourquoi ? Parce que la rémunération est beaucoup plus importante. Et aujourd'hui, avec cette première société que j'ai montée il y a 3 ans, j'ai eu l'idée de mettre en place une plateforme de mise en relation dans le domaine du nettoyage. Et ça marche 100 fois mieux en termes de résultats et en termes de satisfaction client et aussi travailleur. C'est concrètement parce qu'on apporte une réelle solution à des problèmes.
Mais Pierre,
c'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi votre start-up ? C'est une mise en relation, c'est-à-dire vous regardez les besoins, vous allez vous-même chercher ou vous regroupez les annonces et ensuite vous mettez tout ce beau monde en relation. C'est ce que vous faites, quoi, en fait, c'est ça.
Exactement.
Normalement, il y a des organismes qui sont payés par les fonds publics qui doivent faire ça.
Non, mais attends, là. Et Pierre.
Attendez, expliquez, Pierre, allez-y.
Oui. Non, au final, le concept, il est très simple. Non, c'est juste de la mise en relation.
Oui, c'est ça. Oui.
Voilà. C'est-à-dire que
les gens travaillent sous statut auto-entrepreneur. C'est ça que vous précisez.
Exactement. Aujourd'hui, aujourd'hui, en France, dans le secteur du nettoyage, c'est plus de 1 million d'eux. C'est plus de 1 million d'eux.
Pierre, en tout cas, c'est Elina. Je confirme un truc. Je connais plusieurs brasseries. Eh ben les serveuses, elles sont en auto-entrepreneuses.
Voilà. Attention.
Mais je suis désolé.
C'est un délit. Non, mais t'as raison. Mais c'est un délit.
Je sais pas, c'est un délit.
La brasserie en question n'a pas pris un contrôleur SAF qui requalifie systématiquement.
Je vais pas citer le bar.
Dis pas la main parce que.
Mais je sais même pas que c'était interdit, moi.
Allez-y, Pierre.
Il faut vraiment se border justement par rapport à ça. Mmh. C'est légal, hein, c'est autorisé. Ah, le truc, c'est qu'après, il faut pas qu'il y ait dans la restauration. C'est beaucoup plus complexe puisqu'on est obligé d'avoir quelque part un petit peu la hiérarchie entre le cuisinier, entre le patron. C'est beaucoup plus complexe dans le milieu du nettoyage. Non, c'est l'auto-entrepreneur qui est vraiment libre de prendre les missions quand il veut. En fait, il faut pas qu'il y ait de hiérarchie. C'est simplement ça.
Vous savez combien de personnes sont payées aujourd'hui par la Solidarité Nationale qui recherche, là je suis sur le site de France Travail et c'est les chiffres actuels, employés avec un E aussi de ménage, à Tours, donc c'est votre ville, il y a 790 personnes qui cherchent du travail et qui sont payées par la Solidarité Nationale. Il faut les appeler et leur demander pourquoi ils ne veulent pas travailler.
Sur ce qu'il a dit.
Vas-y, Pierre, allez-y.
Il y a aussi les contraintes, il y a les contraintes horaires, il y a les contraintes liées à la famille, il y a tout ça également à prendre en compte. Il y a aussi dans le secteur de la restauration, là, puisque c'est un peu plus celui-ci qui est mis en avant, notamment pour les saisons. À titre d'exemple, je suis allé l'an dernier à Saint-Malo, en visite comme ça faisait quelques années que j'y étais pas allé. On s'arrêtait dans une brasserie manger avec ma compagne. Il y avait une serveuse qui était en pleurs, de comment son patron est en train de la traiter, si je peux me permettre. Et je pense que c'est pas des cas qui sont isolés, en fait.
Non, vous avez raison.
Il y en a beaucoup.
Il faut qu'on fasse un grand nettoyage dans le secteur.
Mais Pierre, vous avez raison. Après, il y a une question de comportement, de relation entre le patron et l'employé. Et en ce qui concerne les saisonniers ou les serveurs, les serveuses ne sont pas considérés que sont des esclaves taillables et corvéables à merci, même quand il y a des moments de tension dans la restauration. Ensuite, il y a le problème du logement.
C'est
majeur. Qui prend en charge? Qui loge? Ou est-ce que tu donnes une indemnité de façon à ce que lui s'y retrouve? Ou c'est toi qui as... Elina, tu auras la parole dans une seconde. Antoine Diers aussi. Je remercie Pierre d'avoir été avec nous. Ensuite, on sera dans la Sarthe avec Sonia, dont la fille cherche un emploi pour un BTS comme saisonnier. Elle trouve pas, alors qu'il y a de la demande. Donc, quel est le problème saisonnier? On a encore 200 000 personnes qui sont... 200 000 postes qui sont à pourvoir. Est-ce que c'est un problème de logement? Est-ce que c'est un problème de salaire? C'est au 32-16 que ça se passe avec les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Antoine Diers, consultant auprès des entreprises, Stéphane Manigold, le restaurateur. Nous sommes avec Elina Dumont, qui est intervenante sociale. Je vois mon écran pour les appels, là, qui est en train de se verdir avec dès qu'on parle saisonnier, dès qu'on parle emploi, dès qu'on parle job, travail. C'est Sonia qui est avec nous. Bonjour Sonia.
Bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour les grandes gueules.
Bonjour, bienvenue ma chère Sonia. Alors, oh, il manque des saisonniers, pourquoi? Comment l'expliquer alors, selon vous?
Ben, je ne comprends pas, parce que moi j'ai ma fille, c'est ce que je lui disais, ma fille elle a 17 ans et demi. Elle cherche dans l'hôtellerie, dans la restauration. Ça fait 3 ans bientôt qu'elle va faire le maïs, le castrage de maïs, donc elle en a un peu marre. Avant elle avait 16 ans, maintenant elle a 17 ans et demi. Elle a son permis, elle est véhiculée, elle cherche dans la Sarthe, Maine-et-Loire, 40 dans le 44, et on n'a rien trouvé.
Comment ça se fait?
Eh ben, je ne sais pas. Chaque fois qu'on postule, trop jeune. Pourtant, elle a 17 ans et demi, donc elle est pas en âge de servir en restauration, de servir de l'alcool, pas rendre la monnaie. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout.
Et alors, Stéphane. Sonia, alors déjà, moi, je suis ravi que votre fille de 17 ans et demi s'intéresse avec passion à notre secteur. Donc ça, je peux que l'encourager. Et néanmoins, effectivement, elle est mineure, si je comprends bien, c'est ça?
Oui, c'est ça, elle a 17 ans et demi, oui.
Et oui, mais la protection des mineurs interdit notamment de tenir une bouteille de vin, de servir un alcool et de travailler après 22 heures.
C'est ça.
Donc, mais pour le coup, dans l'hôtellerie et pour les saisonniers, elle peut très bien faire les arrivées. Enfin, franchement, oui, là, ça. J'ai du mal à comprendre.
Elle peut faire de la mise en place. C'est autre. Moi, je l'ai fait. Donc,
moi, je veux bien récupérer vos coordonnées et diffuser le CV de votre fille, parce que c'est pas normal qu'elle trouve pas du travail.
Ah bah non, parce que là, je vous dis, ça fait 3 ans, ça va faire 3 ans qu'elle va faire le castrage de maïs, donc elle est très courageuse. Ça, il y a pas de souci. Ouais. Mais bon, voilà, à un moment donné, si je suis véhiculée, même durant le 44, je dis au bord de mer, qu'on est en vacances.
Elle veut bosser dans ce secteur d'activité. Donc elle a l'envie,
Tout à fait, parce qu'elle veut faire un BTS en alternance, c'est pareil, on est en alternance, c'est très 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 compliqué, donc elle risque de le faire en suivi, mais on ne comprend plus. C'est pour ça que vous marquez 200 000 saisonniers, manque à l'appel, mais j'ai dit, nous, quand on postule, il n'y a rien.
Mais après, ce que dit Sonia, il y a aussi une part de la vraie vie. C'est-à-dire qu'il y a un recul économique assez fort dans le secteur du tourisme, qui est très violent d'ailleurs. Il y a un retournement de marché. Mes amis corses, j'espère qu'ils vont augmenter, par exemple, pour cet été en termes de volume, parce que là, les réservations ne sont pas bonnes. Pareil dans le sud. Donc, on a quand même un ralentissement qui est assez fort dans le secteur. Donc, c'est pour ça que ce chiffre de 200 000 saisonniers qui manque, moi, je crois pas qu'ils soient en phase.
Merci Sonia d'avoir été avec nous. On souhaite que votre fille trouve. Si Stéphane peut donner un petit coup de main, Léon, on va prendre vos coordonnées. Merci Sonia, bonne journée du côté de la Sarthe.
Et j'aime bien Stéphane, c'est France Travail à RMC les grands gueules. Non mais je trouve ça génial.
Faut utiliser bien sûr.
Non mais moi je voulais rebondir ce qu'il a dit tout à l'heure. Moi je le crois ce chiffre. Parce que bon, moi vous le savez, je travaille qu'avec des gens qui sont en très grande précarité au RSA. De chômage ou rien du tout, je vais te raconter quelque chose. En fait, l'année 2024 est aussi une année très particulière. C'est pour ça que je pense que les chiffres d'Alain sont vrais. Parce que moi, évidemment, mon but, c'est de leur dire « Attendez, il y a des saisons à faire, allez-y ». Mais il faut savoir, il y a un gros problème du logement et le fait que les gens... Le Airbnb, faut savoir que dans les Hauts-de-France, tu peux le lire, le Airbnb, il est complet, mais pas par des gens qui veulent travailler, par des gens qui vont être les touristes des JO. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que quand t'es au RSA, tout à l'heure, t'as dit, Stéphane, il y a t'as donné un chiffre, tant de personnes payées par la solidarité. Mais quelqu'un qui est au RSA, il pourra pas se payer un loyer ou un hôtel ou tu vois ce que je veux dire, Stéphane?
Mais je suis d'accord avec toi.
Donc c'est le problème du logement.
Le problème c'est le logement. Il faut repenser totalement. Il y a une pression dans les stations balnéaires et dans les stations de montagne, parce qu'en fait, t'as deux sujets de saisonnier, c'est la montagne ou
la plage.
La plage, mais maintenant se rajoute, et c'est tant mieux, la ruralité. Donc, trois pans de tourisme forts en France. Et dans ces trois pans de tourisme, t'as pas de logement. Alors, j'ai des confrères, notamment dans le Morbihan.
Le Airbnb, il marche bien, par contre. Hein.
Dans le Morbihan, j'ai des confrères qui mettent en place avec les villes, les régions, le fait qu'ils puissent occuper les internats et loger les salariés. Mais oui, Airbnb a une grosse part de responsabilité sur ce sujet.
Toutes les
plateformes de réservation.
Tu voulais dire un mot, Antoine?
Ouais, un mot. Moi, ce que on a entendu juste avant, ça me parle parce que voilà, Sonia, je me souviens à tout juste 18 ans également essayer de bosser, essayer de trouver du boulot pour l'été et on me prenait pas. J'étais majeur, mais ça demandait nécessairement un peu d'expérience, etc. Ça voulait pas former un jeune. Donc, je me remémore moi aussi un voyage, un road trip il y a quelques années dans dans les pays nordiques où dans tous les restaurants, dans tous les hôtels, on était accueillis par des gamins, quoi. Ils avaient 16, 17, 18 ans et ils tenaient tout l'été. Donc je pense qu'une piste, c'est peut-être de parler aux tout jeunes, 18, 20 ans, en leur disant, vous allez être bien accueillis, on va vous former, etc. Et je crois que là, on a un vivier de saisonniers qui veulent...
On passe, hein.
Ouais, Alain, bonjour,
ça,
Alain.
Ça marche pas,
Alain. Bonjour Alain,
bonjour.
Bienvenue dans les GG. On va retourner bien dans la Sarthe avec vous, mon cher Alain. Alors, c'est quoi le souci puisqu'on ne trouve pas d'intérêt. Enfin, on a du mal à trouver des saisonniers. Alors, quel est le problème?
Je pense qu'il y en a deux. Bon, vous venez parler du logement, c'est certain. Bon, je suis un vieux monsieur, j'ai 76 ans. J'ai été 50 ans cuisinier et j'ai fait de nombreuses saisons. À mon époque, nous étions logés dans ce qu'on appelait l'annexe.
Je vous rappelle.
Alors, généralement, le chef de cuisine ou le directeur de salle avait une chambre pour lui tout seul, mais les aides de cuisine, les plus simples cuisiniers, on était deux ou trois par chambre. Okay. Mm-hmm. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est, excusez-moi, la carte bleue. De mon époque, les serveurs, notamment, arrivaient pratiquement à doubler leur salaire.
Avec les pourboires et le liquide.
Avec les pourboires, liquide.
Vous
aviez des restaurants où le patron rassemblait tous les pourboires de la journée et partageait avec l'ensemble de l'équipe. Et vous en aviez d'autres. C'était seulement la salle. Mais bon, c'était intéressant pour les serveurs.
Ouais,
okay. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Très peu de gens payant à la carte bleue laissent un pourboire aux employés.
Vous pensez que ça joue, Stéphane, il a raison, Alain.
Ah oui, il a raison. Alors en plus, on a un sujet à nouveau URSSAF. Je vais me faire des copains avec l'URSSAF moi aujourd'hui, puisque quand un client laisse ce qu'on appelle le tips, donc le pourboire en espèces, là, il n'y a pas de contrôle, c'est pas soumis à impôt, et donc effectivement, c'est distribué comme le décrit si bien Alain. En revanche, quand le client laisse un pourboire avec sa carte bleue. Là, la réglementation dit ça doit être soumis à cotisation, ça doit être versé sur le salaire, et les charges, et l'impôt, etc. s'applique. D'accord. Je crois qu'il faut qu'on arrive à décadenasser. On avait essayé avec Alain Griset de décadenasser le sujet du quand il était ministre à l'époque. On avait essayé de décadenasser le pourboire parce que effectivement, ça donne de l'attractivité.
Qui laisse des pourboires ici? Antoine, tu laissais pour boire?
Exceptionnellement. Si vraiment j'ai eu un service hyper cool, là je laisse un pourboire. Mais sinon, non.
Elina. Moi, si les gens ils sont gentils, toujours. Il y a des serveurs, ouais. ils sont avenants et tout. Mais il y en a, attends, ils te servent comme si t'étais. Ouais. T'es à peine assis. Vous voulez quoi? Ouais. Paf. Non, cela.
Il n'y a pas de jugement à voir. Moi, je me souviens, on avait pris un verre ensemble et je confirme.
Oui, je me souviens.
Elina dit, on avait pris un verre ensemble. Elle a laissé quelques petites pièces, mais des centimes.
Oui.
Mais elle a laissé, tu as laissé effectivement quelque chose. Donc il ne faut pas avoir peur de. Mais si on peut, il n'y a pas de jugement à avoir. Vous laissez 20 centimes, laissez 20 centimes.
Mais Alain a raison, il y a aussi, c'était l'attractivité parce que moi je me souviens d'un copain qui avait fait barman, il avait 18 ans, à Nice dans la saison, et on lui avait dit justement, on lui dit écoute, ton salaire c'est ça, mais derrière, tu pouvais doubler avec le pourboire. Ça, quand t'es là, tu dis, ah putain, mais ça, c'est dans ma poche, c'est bien, le soir, je peux aller, je peux aller m'amuser. Tous les soirs, tu repartais avec du liquide, quoi. Non, c'est ça qui est bien, quoi. Alors, peut-être que ça joue, effectivement, aujourd'hui.
Ça joue.
Comme tu disais, aujourd'hui, il y a un problème, effectivement, de rémunération, il y a le problème de logement. Et derrière, ce qui était intéressant, c'est que tu repartais, t'en avais un peu dans la poche, quoi.
Tu sais que dans des grandes brasseries françaises, vous avez ce qu'on appelle les garçons de café qui est habillé avec une belle chemise, le nœud papillon, qui incarne, en fait, les belles brasseries ou les beaux bistrots parisiens, tu avais des CV, des piles de CV des gens qui postulaient, et ceux qui partaient à la retraite, ils revendaient leur place au suivant. Ils cooptaient et ils revendaient parce que tellement le pourboire était... Mais la place était bonne parce que le pourboire était conséquent. Donc les mecs, ils revendaient. Et aujourd'hui, tu discutes avec des grandes brasseries parisiennes qu'on connaît ou en France, en fait, ils n'arrivent même plus, eux, alors que il y a quand même un peu de pourboire, eux-mêmes n'arrivent plus à recruter, ils n'ont plus de piles de CV comme avant.
On va aller en Charente retrouver Pierre, tiens, qui est un collègue à toi. Baissez le son, Pierre. Voilà, Pierre qui est restaurateur. Bonjour.
Oui, bonjour.
Salut, bonjour, Pierre. Bienvenue, Pierre. Alors, est-ce qu'il vous manque des saisonniers, vous, ou pas?
Ah, il m'en manque quelques-uns, oui.
C'est-à-dire quelques-uns?
J'ai trois affaires, il m'en manque sept, exactement. Et il ne me manque pas que des saisonniers, il me manque également des CDI. surtout. Donc, le problème, en fait, je vous entendais parler de salaire, etc. et tout. Le problème, c'est que la nouvelle génération ne veut plus s'engager. Moi, j'ai connu l'époque, parce que j'ai 57 ans, et ça fait 30 ans que j'ai des affaires dans la restauration. C'était le Graal d'avoir un CDI. Maintenant, les jeunes, ils veulent tous un CDD. Mais 90% des entretiens que je fais, ils veulent tous des CDD.
Ah bon?
Ouais. Donc, parce qu'ils sont au chômage, donc ils vont faire un CDD pour 3-4 mois. Et donc, on ne peut pas faire de CDD. Donc, à part des emplois saisonniers, on ne peut pas faire de CDD. Et de toute façon, moi, je veux des gens qui s'engagent. Et donc, le CDI, c'est plus le Graal, en fait. Parce qu'au bout du CDD, ben, on touche la prime de précarité, les congés payés, on se remet au chômage et on recommence.
Au-delà des histoires de primes, Pierre, moi j'ai 35 ans et je vois assez bien dans ma génération l'idée qu'on a du mal à signer un CDI, je vous l'accorde, mais pour autant, c'est à l'employeur de nous faire rester. Donc donner des CDD, faites apprécier le job, et si c'est correctement payé, que c'est sympa, etc., le jeune restera.
Et donc elle monte pour payer les salariés.
Attendez, laissez répondre.
Le CDD, il faut qu'il se justifie. Moi, quand un CDI démissionne, je ne peux pas, c'est interdit de le remplacer par un CDD, à moins que ce soit un emploi saisonnier.
Ah bah oui, tu peux pas.
Et voilà, c'est ça.
Dans quel monde tu utilises un CDD comme ça, toi?
Bah, moi, je signe des CDD. CDD.
Bien sûr.
Attendez, laissez finir.
Tu peux renouveler le CDD plusieurs fois.
Allez-y.
Il y a un autre phénomène qui existe, et ça, c'est tout nouveau. Et ça, c'est depuis la fin du Covid. Maintenant, moi, par exemple, j'ai fait des ruptures conventionnelles à des gens qui sont dans la restauration. Je regarde un petit peu leur parcours après leur rupture conventionnelle. Et j'en connais pas beaucoup qui retravaillent dans la profession. Et par contre, ils recandidatent, mais pour être extra. Et le pire, c'est qu'ils veulent des extras, mais payés au black.
Bah exactement, Pierre, c'est bien de le dire.
Après, l'employeur n'est pas obligé de le faire non plus. Hein.
Pierre, il a résumé là. Il a résumé. Les salariés aujourd'hui dans le secteur où ne démissionnent plus, ils veulent des ruptures conventionnelles. Ils touchent tranquillou le chômage maintenant pendant 18 mois. Ça a été rabaissé de 24 à 18. Et que derrière, ils viennent te voir. Ils disent, moi, je veux bien travailler. Et je vais te payer au black.
Non, mais t'es d'accord avec moi que la rupture conventionnelle, ça se fait entre un salarié et un employeur.
Non, mais le
salarié... vous n'avez pas le couteau sous la gorge, quand même.
Si, crois-moi. Oh. Aujourd'hui, non, mais vraiment, Elina, je t'assure que les salariés, de façon assez générale, pas que dans notre secteur, ne démissionnent plus. C'est une rupture conventionnelle, c'est un droit au chômage. Alors, je rappelle juste quand même, c'est une information qui est pas assez dite, mais seul l'employeur cotise pour le chômage, pour cette assurance. Le salarié ne cotise plus depuis 2019. C'est que l'employeur. Et donc, le principe d'une assurance, c'est quoi? C'est un aléa. Il n'y a plus d'aléa quand tu décides de rester au chômage pendant 18 mois. Donc, pourquoi l'assurance fonctionne? Moi, je serais même favorable, et je vais être assez destructif sur le sujet, je serais favorable à donner dans le privé l'assurance chômage et que le privé se démerde puisque c'est une assurance.
De toute façon, je vais faire une petite blague, mais la nouvelle démission, maintenant, c'est la rupture conventionnelle.
Ouais. Et oui, mais l'employeur, il n'est pas obligé d'accepter.
Eh bien, s'il n'accepte pas, c'est ce qui fait le salarié. Alors, le médecin du travail, il dit « je suis inapte ».
Eh ben voilà.
C'est ça, la vraie vie. Voilà.
Bah, écoutez-moi.
C'est la réalité.
Allez-y, Antoine.
Que tout ça soit pas légitime, je vous l'accorde. Mais en revanche, je reviens sur le fait que l'employeur doit pouvoir comprendre que les gens veulent de la flexibilité. Ils veulent plus se marier à vie.
Ah mais et donc tu me dis
peut-être que tu peux pas faire tes CDD, etc. J'en sais rien. J'emploie pas. Mais en revanche, battez-vous pour proposer de la souplesse aux gens.
On parle de la semaine des 4 jours. C'est Gabriel Attal qui met le sujet sur la table. La vérité, c'est pas la semaine des 4 jours. Hein, c'est le week-end des 3 jours. Hein.
Ouais.
C'est ça le vrai sujet. Mais discute un peu avec les artisans. Moi, j'ai discuté avec un chef d'entreprise, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, fleuriste, à Paris, il me dit, Stéphane, on est devenus les esclaves de nos salariés. Ils ont 3 jours. Non, mais c'est vrai, on est devenus les esclaves. Il me dit, moi, je bosse 7 jours sur 7, salarié.
Moi, je connais beaucoup de salariés qui sont esclaves de leur employeur.
Mais tu vas voir quand il y aura le blues. Pourquoi dans Paris, comme dans plein de villes en France, y compris à Dunkerque, pourquoi t'as autant de commerces disponibles? Mais parce que t'as plus envie d'entreprendre. Alors, mais si demain tu dégoûtes l'entrepreneuriat dans ce pays, t'as plus d'entrepreneurs, donc t'as plus de salariés. Mais allons jusqu'au bout dans ce cas-là. Les salariés veulent une liberté absolue, tu sais comment ça s'appelle? Ça s'appelle être en libéral.
Exactement.
Tu casses le code du travail, tu dis,
Chacun travaille comme il veut.
Tu veux payer à la semaine, à la quinzaine.
Tu es payé à la journée, tu travailles une journée, t'es payé une journée. Tu veux travailler une semaine, tu t'es payé une semaine. Mais arrêtons.
Toi, t'es pour ça.
Mais moi, mais tout à l'heure,
on avait un auditeur qui nous parlait de ces gens qui se mettent en auto-entrepreneur pour prendre des missions, etc. Moi, je pense que oui, il faut casser les carcans du code du travail. Et aujourd'hui, tu cherches quelqu'un pour bosser le week-end, eh ben, tu prends quelqu'un avec qui tu contractualises, là je contracte, tu contractualises le fait qu'il bosse le week-end et tu le payes plus cher.
C'est donc, Julien Fleuris qui m'a dit que j'en ai marre d'être l'esclave de mes salariés nous écoute.
En fait, c'est pas normal qu'il soit l'esclave de ses salariés. En revanche, le salarié n'est pas l'esclave du patron non plus. Voilà. Et donc, trouvons un juste terrain d'entente.
C'est fini. Merci à Pierre d'avoir été avec nous.
Ça marche.
Pierre, Pierre, donnez le nom de votre restaurant Angoulême.
Alors, j'ai le River 102 et le Blues Rock Café.
Voilà, bah vous passez voir.
Angoulême.
Vous passez voir.
Et je cherche des salariés, mais qui veulent être déclarés, par contre.
Passez voir Pierre à Angoulême si vous cherchez du boulot du côté de la Charente. Les saisonniers qui manquent à l'appel, est-ce que c'est inquiétant? On va regarder ça. On a posé la question sur les réseaux sociaux. Voyons ce que vous en pensez. Oui, 77%. Est-ce que c'est la faute qu'est-ce qu'il y a écrit? La faute des salaires.
Des salaires.
La faute des salaires. Oui, c'est la faute des salaires à 77%. Oui,
évidemment.
C'est payé.
Et les salaires, ils sont conditionnés comment? Tu sais, t'as une base de chiffre d'affaires qui est de 100. Le salaire, tu peux pas, il peut pas aller jusqu'au 100.